Et un énorme encouragement de la part de Dieu. Et vraiment, ma prière ce matin, c'est que vous puissiez ressortir de ce lieu en ayant été encouragé par Dieu, en ayant été encouragé par le Seigneur, parce que je vous assure que c'est vraiment un énorme encouragement que Dieu veut donner ce matin au travers du message que je vais apporter. Et je vous avoue que moi-même, ça m'a énormément encouragée, que vendredi soir, quand j'étais chez moi dans mon canapé en train d'écrire ce message, j'étais là, je disais à Dieu, mais je suis éternelle, je t'aime et je suis encore tombée amoureuse de mon Dieu. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous ce matin, parce que c'est vraiment un encouragement. Donc recevez dans votre cœur l'encouragement que l'Éternel veut donner ce matin. Et donc mon message, je l'ai intitulé de la manière suivante, « Approchons-nous avec assurance de Dieu ». Alors, c'est pas, ça sort pas de mon imagination, c'est d'un passage dans l'Épître aux Hébreux qu'on prendra plus tard dans mon message. Mais voilà, l'encouragement de Dieu, c'est qu'il souhaite qu'on s'approche de lui avec assurance. Et on va voir ce matin pourquoi on peut s'approcher de Dieu avec assurance et malgré diverses circonstances de nos vies. Et dans mon dernier message, donc là, je refais un petit chemin en arrière, un petit feedback, merci. Donc au mois de septembre, j'étais intervenue et j'avais parlé du fondement en Jésus-Christ. Et dans mon message, donc j'avais parlé que notre vie, en fait, c'était important d'être fondée en Jésus-Christ parce que Jésus est le sacrificateur parfait, parce que Jésus lui-même s'est offert en sacrifice pour nos vies, sacrifice qui est parfait, sacrifice unique. Parce qu'il est le médiateur parfait et à perpétuité, il intercède perpétuellement auprès de Dieu pour nos vies. Et j'avais fini mon message en disant que voilà ce fondement en Jésus-Christ, cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que nous devons la posséder comme une ancre solide et sûre pour notre âme qui nous fait pénétrer au-delà du voile là où est Jésus. Donc ça, c'était en résumé mon message du mois de septembre. Et donc, voilà, Jésus, il a traversé le tabernacle qui n'a pas été fait non pas de main d'homme, mais qui est dans les cieux. Et il a traversé le Saint des Saints. Il a dit à Dieu, voilà mon sang, je te présente mon sang pour l'humanité entière. Et finalement, aujourd'hui, nous, on a un énorme accès auprès de Dieu grâce au sang de Jésus. Nous avons un accès et c'est un droit, en fait. C'est un droit que Dieu a conféré au travers du sang de Jésus. C'est un droit qui est immuable, un droit qui est irrévocable, c'est-à-dire que jamais personne ne pourra nous fermer cette porte qui s'est ouverte, cet accès qui s'est ouvert auprès de Dieu au travers du sang de l'agneau. Il n'y a jamais personne qui pourra nous le retirer. Tu pourrais seulement le retirer si toi tu décides un jour de complètement révoquer Dieu. Ça va au niveau du micro? Si tu décides de renier Dieu, si tu décides de renier et de dire bah non, je veux plus jamais entendre parler de Dieu, je considère que Jésus n'existe pas, là voilà. Mais par contre, si tu acceptes le Seigneur comme sauveur, comme ton Seigneur, et dans ce cas-là, tu as accès à Dieu au travers du sang de Jésus. Et donc, c'est un droit immuable, un droit irrévocable. Mais le fait est, c'est que parfois, et franchement, on peut se l'avouer, il arrive quand même dans nos vies que ça peut être compliqué quand même de s'approcher de Dieu. Ça peut être compliqué de s'approcher devant Dieu. Ça peut être compliqué d'aller au trône de la grâce. Peut-être que je suis la seule, mais moi ça m'est déjà arrivé. Où c'est compliqué, où c'est difficile de s'approcher de Dieu. C'est difficile de continuer à aller vers Dieu au travers de circonstances de notre vie. Alors oui, nous avons un droit qui est puissant, un droit qui est dans le sang de Jésus-Christ, mais nous avons aussi les circonstances de nos vies qui viennent altérer ce droit. Et ce matin, je vais évoquer en fait certaines circonstances qui viennent altérer ce droit et je vais parler en fait de qui est Dieu pour nous encourager au travers des circonstances que nous pouvons vivre à continuer et à s'approcher constamment du trône de la grâce de Dieu. Donc, je vais évoquer plusieurs points. Je vais évoquer la peur. Je vais évoquer les péchés et la tentation. Je vais évoquer les souffrances et la douleur et les infirmités. Alors, on pourrait parler encore de tellement de choses, mais ce sera mes 4 points. Et je me suis dit aussi, en fait, qu'au travers de tout ça, au travers de, finalement, la peur, par rapport aussi à la souffrance, par rapport aux douleurs de la vie, aux infirmités, par rapport au péché et la tentation. On a cette méconnaissance de Dieu, en fait. Parfois, on a un aspect de Dieu, d'un Dieu froid, d'un Dieu qui est froid et d'un Dieu qui est lointain parce qu'il est parfait, parce qu'il est saint et parce qu'on ne peut pas entrer dans sa présence n'importe comment. Et ce matin, je veux vraiment casser cette froideur qu'on peut avoir comme image de Dieu et vraiment nous interpeller sur les fausses conceptions que nous pouvons avoir de la part de Dieu, enfin sur Dieu, pardon, les fausses conceptions et cette méconnaissance que nous avons de Dieu et qui, et ce sera donc mon premier point, qui engendre la peur. Parfois, nous avons peur de Dieu parce que nous ne le connaissons pas assez. Et donc, par rapport à la peur, moi, je peux en parler facilement parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai entendu parler du Seigneur depuis que je suis toute petite, mais il s'avère en fait que dans mon adolescence, je ne m'approchais pas de Dieu pour la raison suivante, c'est que j'avais littéralement peur de Dieu. En fait, je me disais que si je m'approchais de lui, j'avais cette sensation qu'il pourrait me désintégrer sur place, tellement je savais qu'il était puissant, tellement je savais qu'il était saint. J'avais ce sentiment en fait que je pourrais voler en éclats en m'approchant de lui. J'avais peur aussi qu'il révèle des choses pas très glorieuses de ma vie, en me disant si je m'approche, que quelqu'un prie pour moi, et que là on se met à entendre certaines choses, etc. J'avais peur de ça. Et j'avais peur de Dieu, j'avais littéralement peur de Dieu. Et un soir, je me suis retrouvée dans une convention de jeunes, d'inter-église, et il y a un homme, en fait, qui exerçait son ministère, donc le ministère prophétique. Et en fait, il y avait la présence de Dieu comme je l'avais rarement vu à cette époque-là, en fait. Et cet homme-là a exercé son ministère de 20h à peu près jusqu'à 2h du matin. Donc son ministère prophétique, donc ça déménageait dans la salle, tous les jeunes y passaient. Il y avait une onction qui était impressionnante. Et moi, en fait, j'étais là en tant que spectatrice. Je regardais, les bras croisés, et je regardais ce qui se passait. Je me disais, c'est très bien. Je sentais la présence de Dieu comme jamais auparavant. Je disais, ouais, c'est bien, mais moi, j'ai trop peur, en fait. J'étais littéralement apeurée de ce que je pouvais ressentir. Jusqu'au moment dans cette soirée où les battements de mon cœur ont été plus forts, en fait, que la peur que je pouvais avoir de Dieu. Et où j'ai dit à Dieu, si un jour il y a une soirée comme ça, de nouveau, là je te donnerai ma vie. Et en fait, j'ai dit à Dieu, mais si je suis en train de te dire ça, c'est qu'en fait je suis prête à te donner ma vie. Et donc j'ai dit à Dieu cela, j'ai dit, ta parole dit, tu ne sommeilles ni ne dors, donc il était déjà à 2h du matin. J'ai dit à Dieu, si tu m'entends, touche-moi. Et l'homme, en fait, donc qui exerçait son ministère prophétique, a reçu des paroles à 2h du matin pour Élisabeth qui avait peur de Dieu. Et Dieu s'est manifesté, il a révélé, il m'a touchée avec une grande puissance. Et ça va, je ne me suis pas désintégrée sur place. Il ne m'a pas détruite, il ne m'a pas fait mal. Et Dieu, donc c'est vraiment un encouragement pour ceux qui ont peur de Dieu, qui ont peur de ce que l'Esprit peut faire. Quand Dieu vient dans sa puissance, ce n'est pas pour faire mal, ce n'est pas pour faire peur. Il peut nous consumer, mais ça va, notre peau reste intacte, on n'est pas désintégrée sur place. Et s'il a des choses à révéler, on a aussi les hommes qui sont dans le service, les hommes et femmes dans le service. On peut avoir des révélations de la part de Dieu. Donc moi, le Seigneur avait révélé des choses au travers de cet homme. Il les a dites de manière très, avec beaucoup de pudeur et avec il faisait attention à ce que soit pas, à ce que tout le monde entende ce qu'il avait à dire sur ma vie. Et j'ai été vraiment visitée par Dieu. Et dans ce cas, et à ce moment-là, en fait, j'ai goûté vraiment à cette liberté de m'approcher de Dieu en arrêtant d'avoir peur. Et aussi, j'ai découvert réellement l'amour de Dieu, en fait. L'amour qui était altéré au travers de la peur que j'avais de Dieu. Et je voudrais aussi revenir, toujours par rapport à la peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez le culte du 31 octobre, où Antoine avait prêché sur le fait de marcher dans l'autorité du Seigneur. Et il nous avait demandé à la fin de tous nous approcher, en fait, pour vivre encore un temps fort dans l'esprit. Et en fait, j'avais partagé la vision suivante. Donc, j'avais vu, en fait, la colombe qui est le Saint-Esprit. Et que, la colombe était dans la salle, le Saint-Esprit était là. Et il allait comme ça, doucement, en fait, se poser sur les uns et sur les autres. Le problème, c'est que sur certaines personnes, ils ne pouvaient pas se poser ou pas rester longtemps parce qu'en fait, il y avait cette peur. Et donc, on va afficher, j'avais parlé du passage de Romains, chapitre 8, versets 14 à 16. Et je veux parler, en fait, ici, de ce qu'évoque pour nous, de ce qu'est l'Esprit du Seigneur. Et je vais parler de certaines facettes de ce qu'est le Saint-Esprit, de ce qu'est l'Esprit du Seigneur, pour vous encourager à ne plus avoir peur du Saint-Esprit, à ne plus avoir peur du Seigneur. Donc c'est Romains, chapitre 8, versets 14 à 16. Si ça marche. Et donc il est dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Chaque fois que l'Esprit Saint vient nous toucher, chaque fois que l'Esprit Saint vient nous parler, chaque fois que l'Esprit Saint vient remuer en nous notre identité d'enfant de Dieu, c'est notre marque d'adoption auprès de Dieu, auprès de notre Père Céleste. C'est notre marque d'adoption. C'est notre marque que nous sommes agréés, que nous sommes acceptés de Dieu. C'est ton lien avec l'Éternel, c'est ton lien avec le Père Céleste. Alors pourquoi aurais-tu encore peur du Saint-Esprit? Pourquoi aurais-tu encore peur de l'Esprit du Seigneur? Et au travers de la puissance de l'Esprit, au travers de l'Esprit du Seigneur, l'Éternel te dit, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. Et laissez-moi encore vous rappeler ou peut-être découvrir, faire découvrir une des facettes aussi du Saint-Esprit. C'est donc toujours dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du baptême du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, mais il y a une facette du Saint-Esprit que j'aime beaucoup. Et Paul, il dira ça aux Épîtres aux Romains. Aux Romains, il dira de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous avons l'Esprit Saint, nous avons l'Esprit du Seigneur qui intercède pour nous auprès du Père. Quand parfois nous sommes dans des situations où nous ne savons plus quoi dire à l'Éternel, où nous ne savons plus quoi faire devant Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui va devant l'Éternel et qui intercède pour nous, qui intercède auprès du Père. C'est ça le Saint-Esprit, c'est ça l'Esprit du Seigneur pour nos vies. C'est un esprit de puissance, un esprit qui va baptiser, qui va nous doter de capacités et de dons, mais c'est un esprit qui va intercéder auprès de Dieu, qui va intercéder pour nos vies. C'est cet esprit-là qui veut se poser sur toi ce matin et qui veut se poser sur nous jour après jour. C'est un esprit qui intercède auprès du Père. Amen. Moi, ça me rend bouillante quand je sais que j'ai l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui va intercéder dans les cieux célestes pour ma vie. Alors, pourquoi aurions-nous encore peur du Saint-Esprit? Pourquoi aurions-nous encore peur de l'Esprit du Seigneur? La parole de Dieu nous dit aussi, donc dans le livre de Jean, au chapitre 16, versets 13 à 15, que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses, pour nous enseigner la vérité. Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a, merci, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit passe son temps à nous parler de qui est Dieu, parle son temps à glorifier Jésus-Christ, à nous montrer quelle est la gloire de Jésus-Christ, à nous amener dans la révélation de Jésus-Christ, à nous amener dans la révélation de toute la vérité, de toute la parole de Dieu. Alors le Seigneur nous dit ce matin, pourquoi aurais-tu peur de mon esprit? Pourquoi aurais-tu peur de moi? Pourquoi aurais-tu peur de mon esprit? Je suis là pour t'enseigner toutes choses, pour te conduire dans un chemin de vérité, dans un chemin de gloire. Tu verras ma gloire. Amen. On va prendre aussi, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Et quand le Saint-Esprit vient et descend sur nous pour baptiser du Saint-Esprit, pour nous doter de dons et de capacités, il est dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant. Donc en fait là on parle des dons, il distribue les dons à chacun en particulier comme il veut. Quand l'Esprit de Dieu vient avec sa puissance, c'est pour nous doter de capacités surnaturelles pour que l'Église puisse grandir dans la gloire et dans la puissance du Seigneur. Et l'Église est appelée à grandir dans la puissance du Seigneur au travers des dons que l'Esprit Saint donne comme il veut, à qui il veut, quand il veut et de la manière dont il veut. Et l'Église est appelée à croître sur la base de la puissance du Saint-Esprit. Pas juste sur des discours de sagesse ou des beaux discours formulés. Dans les Actes des Apôtres, on voit que l'Église grandissait au travers de la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit Saint les accompagnait, il y avait l'assistance du Saint-Esprit. Alors ce matin, et dans les jours à venir, et dans les mois à venir, si tu as eu peur du Saint-Esprit, si tu as eu peur de l'Esprit du Seigneur, affranchis-toi au travers des passages que je viens de citer, que nous venons de prendre. Le fait que l'Esprit Saint intercède auprès du Père constamment pour toi, le fait que l'Esprit Saint est un esprit qui vient t'enseigner toute la vérité, et il a un esprit qui vient te donner tous les dons dont tu as besoin et dont l'Église a besoin pour grandir dans la puissance, pour grandir dans la puissance et être manifestée au monde entier, pour que la puissance de Dieu soit manifestée au monde entier et que l'Église soit une lumière pour les nations. Amen. Alors ce matin, n'aie pas peur du Saint-Esprit, affranchis-toi de ta peur. Maintenant, je passerai à mon deuxième point et je vais parler des péchés et de la tentation et des tentations. Et là aussi, dans nos péchés, dans les tentations, on a l'image d'un Dieu qui est froid. On peut avoir cette image-là au travers de nos chutes, au travers de nos faiblesses, d'un Dieu qui est froid, d'un Dieu qui est lointain, d'un Dieu qui ne sait pas du tout ce qu'on est en train de vivre parce que c'est un Dieu saint qui règne sur son trône de gloire. Et donc, on a parfois l'impression que Dieu ne sait pas du tout ce qu'on est en train de vivre. Et on va voir ensemble, en fait, qu'on est bien loin du compte et qu'on a un Dieu qui est tellement proche de nous. Alors, il est vrai que le péché nous sépare de Dieu et que notre nature pécheresse, de toute façon, a pour condamnation ultime la mort. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit et... voilà, il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. Le péché nous sépare de Dieu. Mais Jésus est venu nous justifier par son sang, nous apporter la rédemption et la rémission des péchés. Et aussi pour les tentations. Parfois, nous sommes dans des entre-deux. Il y a nos pensées qui vont commencer à aller un peu dans tous les sens et nos pensées vont commencer à devenir captives par rapport à des choses, à des convoitises, à de l'orgueil, par rapport à l'argent, par rapport à la peur, par rapport à l'angoisse. On peut tomber dans des tentations tellement diverses et variées. Et ça, en fait, le fait de rentrer... soit de chuter, en fait, à nouveau dans certains péchés ou de ne pas encore avoir connu la libération de certains péchés, d'avoir des pensées qui vont être captives dans des tentations, d'être dans des entre-deux. Et on sait très bien, je pense qu'on a tous déjà eu l'expérience d'être dans cet entre-deux et de se dire, bah, ça va, je vais résister. Puis finalement, on est comme Samson qui a tout le temps résisté auprès des femmes jusqu'au jour où il a pu résister. Et en fait, son secret de puissance par rapport à ses cheveux, il l'a révélé. Et nous, parfois, on est là dans des entre-deux de tentation. Et on sait très bien que si on ne s'écarte pas très vite de la tentation, on tombe. Tôt ou tard, on tombera. L'entre-deux dans les tentations, on connaît très bien. On est faible et on tombera. Et le fait est, c'est qu'on peut comme ça demeurer dans des culpabilités, dans ce sentiment qu'on a un Dieu qui est tellement saint, en fait, qui est très loin de nous. Mais la parole de Dieu aussi est très claire sur le cœur que Dieu a pour nous. Et là, on va prendre, donc c'est Hébreux chapitre 4, verset 15. Et il est dit cela de la part de Jésus, qui est donc le grand souverain sacrificateur dont j'avais parlé en septembre et dont je vous ai évoqué quelques souvenirs. Et il est dit, en fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va mettre vraiment l'accent sur ce qu'était Jésus et donc ce qu'était Dieu. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a été tenté en toutes choses. En toutes choses. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Tentation immorale, tentation de doute, de peur, d'incrédulité. Dans le tout que la parole de Dieu dit, on peut tout mettre. Et Jésus a été tenté en toutes choses. Alors, il est vrai, il est dit, sans commettre de péché. Jésus seul n'a jamais commis de péché. Nous, nous commettons des péchés, nous tombons dans nos faiblesses. Mais Jésus, il était Dieu fait homme, homme pleinement chair, dans la chair. C'était pas un déguisement, c'était pas un faux semblant de chair. Si tu pensais Jésus, il avait mal. Quand on lui a mis les clous dans les mains, c'était pas un faux semblant, c'était pas un autre Jésus qui était sur la croix, c'était pas juste un costume de chair. C'était Jésus fait homme. C'était Jésus dans tout ce qu'il y a de plus charnel et de plus humain. C'était Jésus avec des émotions. C'était Jésus avec un cœur, avec une âme. C'était Jésus, Dieu fait homme. Jésus dans toute sa chair, dans un corps charnel. Jésus, c'est Dieu fait homme. Il s'est rabaissé, il s'est humilié, il a emprunté un corps de chair. Comme nous, il était semblable à nous. Et l'auteur aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, attire notre attention sur le fait que oui, nous avons un Dieu saint. Un Dieu saint, un Dieu puissant, un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est l'alpha, l'oméga, toute la grandeur, tout est en Dieu, tout subsiste en Dieu. Mais Jésus, Dieu fait homme, a été tenté comme nous. En toute chose. Alors, mon encouragement, c'est que dans tes tentations, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu et dépose des tentations. Approche-toi de Dieu et dépose tes faiblesses. Approche-toi de Dieu et dépose tes péchés et continue de demander pardon à Dieu. Et même si ça fait 100 fois que tu demandes à Dieu pardon pour le même péché parce que tu n'as pas encore connu la pleine libération de ton péché parce que tu es encore esclave d'un péché, eh bien continue, continue de t'approcher de lui. Continue de t'approcher de lui. Et vous savez, une des erreurs parfois que l'on fait, c'est que, en fait, on se dit, quand il y a un péché ou une tentation qui est là, qui est juste devant nous, en fait, on se dit, on met toute notre énergie pour quitter ce péché, pour fuir ce péché. On met toute notre force. On est là, je vais réussir, je vais arrêter ce péché, je vais arrêter. Et on est là comme ça, dans des pensées positives. Je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. Ce qu'on oublie parfois de faire, c'est de courir à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu saint. Et Dieu va venir transformer notre nature. Et c'est en Dieu que nous allons avoir la victoire d'abandonner des péchés. C'est en Dieu que nous allons avoir la victoire face à des tentations. Parce que le Jésus a eu la victoire. Alors si nous passons du temps, si nous fuyons le péché, mais si nous ne nous arrêtons pas en route, parce que parfois on fuit le péché, on se met dans un cercle et on est là errant et on tourne en rond. On ne sait pas comment faire pour être libéré du péché, de nos tentations. C'est parce qu'on a oublié qu'on devait aller plus loin, qu'on devait entrer dans la présence de Dieu, qu'on devait entrer et passer du temps face à face avec un Dieu saint et que lui allait changer notre nature et qu'il allait nous sanctifier. C'est ça la sanctification. Quand nous venons à Dieu, nous avons tout qui est entremêlé. Nous avons la rédemption des péchés, nous avons la rémission des péchés, nous avons le salut, nous avons la justification. Nous avons la sanctification et nous avons ensuite la paix avec Dieu. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Et tout est entremêlé comme ça dans notre marche avec Dieu. Mais souvent la sanctification, nous pensons que c'est juste fuir le péché. La sanctification, c'est entrer dans la présence d'un Dieu saint qui changera notre nature par la puissance de Dieu. Amen. Alors approchons-nous dans nos tentations, approchons-nous dans nos péchés où nous demandons pardon à Dieu, approchons-nous du trône de grâce parce que nous avons un Jésus qui a été homme, qui a été fait chair et qui a connu toutes les tentations. Et vous savez, on ne prendra pas, mais il y a le livre de Matthieu, donc on connaît tous les tentations de Jésus dans le désert, les 40 jours dans le désert. Et parfois, en fait, on a ce sentiment que les tentations de Jésus, c'était que ça a été juste à ce moment-là. Parce que quand on parle de la tentation qu'il a eue avec le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a été tenté, il avait faim, et l'ennemi va lui dire quoi ? Satan va lui dire, t'as qu'à transformer ces pierres en pain, et comme ça, t'auras du pain. Hop, tentation corporelle, tentation dans le corps qui crie la faim, qui crie la famine, et Satan lui dit ça. Mais le fait est, c'est que les tentations corporelles de Jésus ne se sont pas limitées à cette tentation-là. Jésus a été jeune homme, a été enfant, a été jeune homme, et après le moment dans le désert, il y a encore eu des tentations qui ne sont pas racontées, mais Jésus était encore dans un corps charnel. La parole de Dieu nous dit aussi, dans le livre de Matthieu, il est dit en fait que l'ennemi l'a tenté en lui disant si tu te prosternes devant moi, tu auras tous les royaumes. Il a été tenté face au péché d'orgueil en disant adore-moi. Le diable est devant Jésus en disant adore-moi. Il a été tenté. Mais le péché comme ça, ce péché-là, Jésus l'a pas rencontré qu'une seule fois, il l'a rencontré plein de fois. Les tentations de Jésus ne s'arrêtent pas aux 40 jours dans le désert. Quand Jésus a été tenté aussi dans l'esprit, parce que le diable va lui dire, jette-toi, et la parole de Dieu dit que de toute façon les anges viendront à ton secours. Il a été tenté aussi dans les choses de l'esprit. Et c'est pas la première fois que Jésus a été tenté. C'est pas parce que la parole de Dieu nous remet pas tout. Mais les 40 jours, ce n'est pas juste 40 jours de tentation pour Jésus. Il a été tenté avant. Il a eu une extrême tentation face à Satan dans le désert. Mais il a été encore tenté jusqu'au bout. Parce qu'il était homme fait chair. Oui, c'était Dieu. Mais il était pleinement homme. Pleinement homme au plus profond de la chair. Alors, quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches de Jésus, dis-toi que oui, tu es un Dieu saint. Que oui, tu es un Dieu glorieux, un Dieu majestueux, mais un Dieu qui a foulé la terre de ce monde. Un Dieu qui a foulé la terre de ce monde et qui a vécu dans un corps, qui sait ce que c'est d'être tenté, qui sait ce que c'est d'avoir des péchés qui sont là tapis à notre porte. Il le sait, il a été éprouvé dans cela. Mais il a eu la victoire et c'est en lui que tu auras la victoire. Amen. J'aborderai mon troisième point maintenant, c'est la souffrance, la douleur, les cris, les larmes et les angoisses. Et c'est vrai que la souffrance, c'est quelque chose de très compliqué. Déjà, c'est très compliqué pour la personne qui est dans la souffrance, parce que elle, la souffrance, gérer sa souffrance, parfois les souffrances sont tellement dures, les douleurs sont tellement dures que c'est difficile à gérer. La gestion est difficile aussi pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui entourent les personnes qui sont dans la douleur. Quoi dire, quoi faire. C'est délicat de toujours trouver les justes mots, la juste manière de faire les choses, c'est compliqué. Parfois on marche sur les œufs, en fait on est là et on ne sait pas comment s'y prendre. Et nous sommes aussi désemparés face à des souffrances qu'on peut voir chez les autres et que nous ne connaissons pas. On va vivre chacun des souffrances différentes et c'est très compliqué. C'est très compliqué de comprendre à quel point une personne peut souffrir. C'est très compliqué pour chacun d'entre nous de réussir tout le temps à rejoindre une personne qui est dans la souffrance, à la rejoindre parfaitement, à la rejoindre comme il faut, là où elle en est dans sa souffrance. C'est très compliqué. Et souvent, en fait, ça nous arrive de se blesser les uns les autres dans la souffrance parce qu'en fait, on voudrait tellement faire bien, on voudrait tellement encourager et parfois les encouragements sont comme des flèches qu'on se prend encore, ça fait encore plus mal dans des temps de souffrance. Je pense qu'on l'a déjà tous vécu, on a déjà tous entendu quelqu'un dire « Ouais, mais il m'a dit ça » et on l'a mal pris et on était dans la douleur et ça s'empire, etc. C'est très très compliqué, la souffrance. Gérer la souffrance, c'est très compliqué pour la personne qui souffre, pour l'Église, pour la communauté. C'est énormément compliqué. Et le fait est, c'est qu'on est tellement limité dans la gestion de la souffrance, dans la gestion des douleurs des uns des autres, que parfois on a tendance à croire que Dieu est pareil en fait, que Dieu est limité comme nous on est limité. Que là où nous on ne sait plus écouter quelqu'un qui nous raconte tout le temps la même chose, qui nous raconte la même douleur, on pense en fait que Dieu il est pareil. Qu'à un temps donné, Dieu il dit, bon allez, telle souffrance, t'en as pour un mois, au bout d'un mois, eh ben je te tourne le dos. Telle souffrance, bah ok, normalement, ça, bon allez, quand même 3 ans. Je pense que c'est normal que tu pleures pendant 3 ans sur cette douleur. Et hop, on tourne le dos. J'ironise tout ça, mais parfois on réagit vraiment comme ça en fait. Parfois on a plus de patience face à des souffrances qu'on peut voir chez les uns et chez les autres. Parfois on n'a plus de patience, on ne sait plus écouter, on ne sait plus entendre. Et Dieu, lui, il n'est pas du tout comme ça et pourtant c'est Dieu. Et je vous invite à prendre le psaume 56, verset 9. Verset 10 alors. C'est bizarre. Ça doit être juste après. Bon, là, normalement, le psaume 56, verset 9 ou verset 10, ça dit, c'est David qui parle à Dieu et il dit, tu recueilles mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu note toutes les larmes que nous puissions avoir sur cette terre, elles sont notées. Elles sont notées dans le livre de Dieu. Dieu porte chacune de nos larmes. Chacune de nos larmes sont portées par Dieu. Là où nous, en tant qu'hommes, on tourne le dos, parfois dans la souffrance parce qu'on ne sait plus quoi faire, Dieu porte toute la douleur et toute la souffrance que nous pouvons avoir. La parole de Dieu dit que toutes nos larmes sont inscrites dans son livre. Toutes nos larmes, il n'y en a pas une qui échappe à Dieu. Il n'y en a pas une qui échappe à Dieu. Dans Hébreux 5, chapitre 5, au verset 7, il nous est parlé de Jésus en disant que Jésus, il est le souverain sacrificateur qui, dans ses jours de chair, s'est présenté devant Dieu avec de grands cris, avec des larmes. Il a présenté des prières avec des larmes et des supplications. Jésus a connu l'angoisse de la mort. Jésus a eu de grands cris. A eu des larmes, il a mis des... Ses prières ont été faites dans des larmes, avec des supplications pour être sauvé de la mort auprès de Dieu. Jésus, notre grand souverain sacrificateur, il a crié à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Alors pourquoi nous nous arrêtons de venir à l'Éternel? Pourquoi est-ce que souvent on dit « mets ta douleur de côté, mets tes tristesses de côté » Non, viens dans la présence de Dieu avec tes larmes, avec tes cris et alors l'Esprit du Seigneur te donnera de la joie. Mais parfois je me suis permise d'inventer une expression, on invente en fait chez nous le botox spirituel. On est figé. Ça va? Tu vas pleurer. Attention, j'ai vu une larme. Et on est comme ça. Et non, c'est je viens avec mes larmes, avec mes cris, comme Jésus dans son corps de chair a crié à Dieu. Alors je crierai comme Jésus a crié devant mon Dieu et je m'approcherai de son trône de grâce. Et vous savez, pour moi, cette année... parce que là, l'année va bientôt se terminer, et l'année 2016 a été une année de très grande souffrance et de très grande épreuve, et pour Claude aussi. Et je vous avoue qu'il y a un passage qui m'a sauté aux yeux, et c'est la première, donc c'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Donc le verset suivant... Donc c'est que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, alors c'est parti dans Chronique. C'est pas grave. En fait, il est dit, vous pouvez noter la référence, c'est 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Et là, il est dit que notre Dieu est un Dieu de toute consolation. De toute consolation. En Jésus-Christ, nous avons la consolation. En Jésus-Christ, quand nous voyons comment Jésus a été sur terre, comment Jésus a guéri et consolé, et ça reflétait tout simplement le fait que nous avons un Dieu qui console, un Dieu qui est capable de consoler de toutes choses. Alors oui, dans nos cris, dans nos douleurs, dans nos souffrances, dans nos angoisses, si tu es angoissé de la mort, si tu as des pensées de mort, viens à Dieu et approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Continue de t'approcher du trône de la grâce de Dieu. Parce que nous avons un Jésus qui a connu de grands cris, qui a connu de grandes douleurs. Et nous avons un Dieu qui console de toute consolation. Amen. Et dans le tout, tout s'y retrouve, toutes les souffrances de la terre. Nous pouvons être consolés en Dieu et en Dieu seul. Amen. On prendra pas le passage, mais la parole de Dieu nous dit aussi que Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. Alors oui, quand nous venons devant le trône de Dieu, devant la grâce de Dieu, eh ben, rappelons-nous que nous avons un Jésus qui a foulé les pieds, qui a mis ses pieds sur cette terre et qui a souffert énormément et qui est capable de nous consoler et de nous guérir. Et nous avons aussi l'exemple de la Samaritaine pour les infirmités. Quatrième point, les infirmités. Elle a souffert pendant des années. On peut l'afficher, c'est Marc chapitre 5, verset 25 au verset 34. Il est dit que cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent « Mais tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et là il est dit « La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » J'aime beaucoup la fin, c'est dit qu'elle était tremblante et elle était effrayée. Et Jésus, il va avoir ce mot-là, il va lui dire « Ma fille, toi qui avais une perte de sang pendant 12 ans, il lui dit « Ma fille, elle était effrayée comme nous, parfois nous nous approchons de Dieu effrayée. Ma pensons à la Samaritaine, elle était effrayée. » Jésus lui a dit « Ma fille, il a eu cette marque d'affection envers elle, ma fille. » Et nous oublions souvent que Jésus, il est dit que Jésus était doux et humble de cœur. Quand nous nous approchons du trône de la grâce de Dieu, nous nous approchons d'un Jésus qui était doux et humble de cœur. Nous avons chanté ce matin « Ta tendresse m'envahit ». La douceur de Jésus, nous avons besoin de la connaître. La tendresse de Jésus, nous la trouvons. La douceur de Jésus, nous pouvons la trouver devant le trône de grâce. Alors continuons à nous approcher de Dieu dans nos douleurs et dans nos souffrances. Et même si tu dois dire, comme moi je l'ai dit au mois de mars, mes seuls mots étaient « Je suis brisée ». Même si c'est avec ces mots-là que tu dois entrer dans la présence de Dieu, que tu dois t'approcher du trône de la grâce, eh ben tu as le droit. Dieu t'a conféré le droit et tu trouveras la consolation. Tu trouveras le Jésus qui te dira « Ma fille, mon fils ». Amen. Alors ce matin, tu as le choix. Tu as le choix en fait de rester sous l'esclavage, sous la servitude, sous l'esclavage de la peur, sous l'esclavage de tes fausses conceptions, sous l'esclavage de ta méconnaissance, de notre méconnaissance. Nous avons le choix de rester comme cela. Mais nous avons aussi le choix de nous affranchir de tout cela en nous armant de la vérité, en prenant la vérité pour vraiment, c'est notre partage, la parole de Dieu, c'est pour nous, en nous armant de la vérité, et en nous approchant de notre grand souverain sacrificateur qui est compatissant, qui est miséricordieux, qui est fidèle et qui est le Dieu de toute consolation. Et la parole de Dieu dans les Lamentations, il y a le livre des Lamentations dans la Bible, comme quoi Dieu n'a honte de rien, Dieu n'a pas honte d'un peuple qui se lamente. Et là, il est dit que les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Les bontés ne sont pas à leur terme. Amen. Et je vais finir avec cet encouragement-là. Ça fait un peu double conclusion. Et là, ce sera un clin d'œil à Michael et Rebecca. Je vais citer Martin Luther King. On en avait parlé chez Matt et Noé. Et ça rejoint parfaitement, je me suis permis un parallèle. Martin Luther King, donc grand défenseur pour les hommes et femmes noirs, il avouait toute sa vie. Il disait cela en fait. Aussi longtemps que l'esprit est mis en esclavage, le corps ne peut jamais être libre. La liberté psychologique, un ferme sens d'estime de soi, est l'arme la plus puissante contre la longue nuit de l'esclavage physique. Aucune proclamation d'émancipation ou charte des droits civiques ne peut apporter totalement cette sorte de liberté. L'homme noir sera libre quand il atteindra les profondeurs de son être et qu'il signera avec le stylo et l'encre de son humanité affirmée sa propre déclaration d'émancipation. Et avec un esprit tendu vers la vraie estime de soi, l'homme noir doit rejeter fièrement les menottes de l'auto-abnégation et dire à lui-même et au monde « Je suis quelqu'un, je suis une personne, je suis un homme avec dignité et honneur, j'ai une histoire riche et noble. » Et je vais me permettre un parallèle, j'ai écrit quelque chose en parallèle, je ne m'estime pas du tout Martin Luther King, mais j'ai eu de l'inspiration. Et donc voilà, j'ai écrit cela et j'espère vraiment et je prie que ce soit une proclamation pour nous. Aussi longtemps que l'esprit est mis en esclavage, nous ne sommes pas libres. Le droit et la liberté de nous approcher avec assurance de Dieu est l'arme la plus puissante contre l'esclavage spirituel. Que nous soyons libres, ma prière est que nous soyons tous libres, et nous le serons tous quand nous aurons atteint les profondeurs de notre être, et que nous aurons signé, non pas avec un stylo et une encre, mais avec notre foi et le sang de Jésus-Christ, le droit et la liberté de nous approcher de Jésus, du trône de grâce dont Jésus en est l'auteur. Nous avons le droit de nous approcher et d'accéder au trône de la grâce. Et avec notre esprit qui tend vers la vérité, nous rejetterons les menottes de l'auto-condamnation, de l'auto-rejet. Et nous nous dirons à nous-mêmes et au monde, nous sommes enfants du Dieu compatissant, fidèle, doux, humble, et nous nous approcherons avec assurance du trône de la grâce. Amen. 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 Nous avons un Dieu glorieux, un Dieu puissant. Et ma prière ce matin est que nous puissions aller dans les profondeurs de notre être et signer avec la foi et le sang de Jésus-Christ notre droit d'accéder à Dieu afin d'être libérés de tout esclavage spirituel. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et on va vraiment prier. On va prier et proclamer que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau nous confère ce droit et que ce droit, on puisse en prendre pleinement possession afin d'être libérés de tout esclavage en allant auprès de notre Père qui est doux, humble, qui est compatissant et qui est fidèle. Et si vous avez besoin de recevoir la prière parce que vous sentez que vous avez le besoin au regard de la peur, au regard des souffrances, au regard des infirmités, ben prenez ce temps, or si tu peux venir au piano, et prenez ce temps pour vous approcher ce matin. Faites le premier pas ce matin. Je parle de quand on s'approche du trône de la grâce de Dieu, c'est non seulement ici, mais c'est aussi dans notre intimité avec le Seigneur, tous les jours de notre vie, dans notre chambre, partout où nous sommes, que nous puissions proclamer le sang de Jésus sur nos vies et à chaque fois aller et entrer dans la présence de Dieu, s'approcher du trône de la grâce. Donc ce matin, si tu as peur, ce matin, si tu t'es arrêté en chemin et que tu as besoin de recevoir la prière, avance-toi. Ouais, Seigneur, je te remets, Seigneur Jésus. Je te remets, Seigneur, chaque homme, chaque femme qui est présent dans ce lieu. Et je prie, Père, que ton esprit puisse rappeler à notre esprit que tu as été ce grand sauveur, ce grand Seigneur, mais que tu as été Jésus, homme, homme charnel, qui est venu sur cette terre et tu as souffert. Tu étais homme de douleur, tu étais homme de souffrance. Oui, tu as été tenté en toutes choses, alors je pourrai toujours m'approcher de toi. Et alors je trouverai un Dieu compatissant, je trouverai un Dieu doux, je trouverai un Dieu qui est humble de cœur, je trouverai un Dieu qui a des compassions qui ne sont pas à leur terme, qui ne sont pas épuisées. Je trouverai un Dieu qui est compatissant dans mes faiblesses, un Dieu qui me prendra par la main et qui me dira « ma fille » et qui dira « mon fils ». Et qui dira, je te donnerai la victoire. Je te donnerai la victoire parce que tu t'es approché de mon trône de grâce. L'Éternel te dit ce matin, tu auras la victoire. Et je te donnerai la victoire parce que tu t'es approché de moi. Parce que tu es ma fille. Parce que tu es mon fils. Parce que tu as pris ce droit que je t'avais donné. Tu as le droit, l'Éternel te dit, tu as le droit de t'approcher de moi. Tu as le droit de t'approcher de moi dans les souffrances de la vie, dans les douleurs de la vie. Et je ne suis pas loin de toi parce que j'ai été fait homme sur cette terre. Et j'ai connu moi aussi de grands cris. J'ai connu moi aussi de grandes larmes. Moi aussi j'ai hurlé auprès du Père. Moi aussi j'ai hurlé auprès du Père. Alors toi aussi viens, 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 viens dans la présence de ton Dieu. Viens dans la présence de ton Dieu. Viens et hurle, viens et crie, viens et dépose tes larmes, viens et dépose ta souffrance, viens et dépose tes peurs, viens et dépose tes tentations, viens et dépose tes péchés, viens déposer tes fardeaux. L'Éternel t'appelle à déposer tes fardeaux, à déposer tes fardeaux, dépose tes fardeaux, dépose tes péchés, dépose, dépose-les au pied du trône de la grâce, au pied du trône de la grâce, car tu as un Dieu qui est compatissant, tu as un Dieu qui s'est fait homme de douleur, homme de souffrance, habitué à la souffrance, qui a connu toutes les tentations du monde dans l'extrémité, dans l'extrême parce que c'était Jésus. Alors non, le bras de Dieu n'est pas trop loin, non, le bras de Dieu n'est pas trop loin, non, le bras de Dieu n'est pas trop loin. Non, le bras de Dieu n'est pas trop loin. Mets dans ton cœur la signature du sang de Jésus et de ta foi en Jésus-Christ. Je prie, Éternel, que l'Église soit fortifiée au travers des compassions que tu as pour nous. Que l'Église soit fortifiée au travers des compassions que tu as pour chacun d'entre nous. Que l'Église puisse témoigner des compassions que tu as pour nous. Que nous puissions tous témoigner des compassions que tu as pour nous. De la consolation que tu as pour nous. De la consolation que tu as pour nous. De l'amour que tu as pour nous. Non, tu n'es pas un Dieu loin. Tu es un Dieu qui a habité cette terre en tant qu'homme. Tu as foulé cette terre avec de la souffrance, avec de la douleur, avec des tentations, mais tu les as vaincues. Et en toi, nous avons la victoire. Shoromayana, soromayana si. Ola mayana sandara mayana sondoromayana santara shantara mayana so. Shoromay, chante. Chante un chant nouveau, chante un chant de victoire, chante, 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 apporte tes peurs, apporte tes peurs, apporte tes peurs, apporte tes peurs, apporte tes douleurs, apporte, entre, entre dans la présence de Dieu avec des cris, avec des larmes, et Dieu te consolera, Dieu te consolera parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Sormayana sontormayana shantala mayana so sormayana sontormayana same sormayana so. Tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de compassion. Tu as foulé la terre avec douleur. Tu as foulé la terre dans les souffrances. Tu as souffré, tu as foulé la terre avec douleur, avec souffrance. Tu as versé des larmes, tu as crié. Tu déposes, Père, en cet instant, des compassions, Père, tu déposes dans chaque cœur, tu déposes les compassions que tu as pour chacun d'entre nous. Shormayana, sormayana, sormayana.